L'eau de la source. Sandre est un roi. Son royaume est assez petit. Beaucoup de ses habitants sont allés vivre en ville. Ils ont été drainés des campagnes par les grandes routes. Beaucoup sont partis, aspirés par la ville comme les ruisseaux sont aspirés par les grosses rivières, les fleuves et puis la mer. C'est un roi fatigué de vivre, une histoire qui toujours se répète, inlassablement. Dans son lit, dans sa chambre, il entend les notes d'une partition qui a fini de vivre. Son fidèle serviteur entre. Le roi dit :
L'homme, dans sa fuite égoïste, l'homme a tué Dieu en lui. Puis il s'est fragmenté par cupidité et par ignorance. Le mensonge de l'ignorance en se fragmentant comme des milliers de morceaux de miroir glacé, cassé. Son sens est figé. L'homme a tué Dieu en lui. Et son crime, sans cesse, vie après vie, son crime s'est sans cesse répété. Parce que cette histoire criminelle est restée aveugle et sourde. C'est l'été et encore la même fête insipide avec les mêmes chansons vidées de tout sens. La voix qui les porte n'a plus de cœur, plus de mots, plus d'écho. Elle est lessivée à force de repassage. Votre musique ne sait plus me faire danser. Je suis fatigué et fatigué de ne rien pouvoir faire pour changer ça.
Son serviteur, un homme à tête de souris, lui répond.
Vous êtes le roi, majesté. Vous avez tout pouvoir.
Quel pouvoir ? Je suis là et seul. Et je suis juste un otage de plus. Un otage des lois. Un otage de vos lois. Je ne trouve pas d'issue à mon désespoir. Je suis enfermé. Mais cette histoire ne va pas se reproduire encore !
Crie-t-il enfin.
Cette non-fête qui n'en finit plus de toujours revenir ne doit pas revenir !
Le serviteur qui porte un masque de souris, perdu, sans ordre, reste là. Dans son esprit, la perspective de retourner là-haut dans la petite ferme de ses parents vient happer son cœur comme une vague énorme et irrémédiablement définitive. Il sait maintenant qu'il va partir. Le roi le sait aussi. Mais il a encore une requête à faire. Il marche doucement vers la fenêtre, haute, éclaboussée de lumière. Le roi ferme les yeux pour mieux sentir la caresse du dieu soleil, douce, belle, rayonnante. Il dit :
Regarde, ce soleil, il t'appelle. Tu vas peut-être commencer à vivre vraiment aujourd'hui. Mais avant, va me chercher le petit joueur de sitar qui a joué hier, pas loin de la fenêtre.
Immédiatement, son serviteur, dans une gracieuse révérence, obéit. Il va chercher le joueur de sitar qui vient se présenter. Le roi le reçoit dans sa chambre. Il est encore en robe de nuit brodée soyeuse. Le petit joueur de sitar est vêtu de pantacourt marron, d'une chemise beige, habillé d'une petite cape en laine d'un vert vif. Poliment, il s'incline. Majesté.
Comment t'appelles-tu ?
Je me nomme François.
L'homme dans une révérence sincère et gracieuse.
Je t'ai entendu jouer hier. Je suis là de cette fête fade et triste. Joue-moi ta chanson, s'il te plaît.
De ses mains habiles et fortes, l'homme prend sa sitar et joue quelques notes joyeuses comme une petite chèvre bondissant dans l'herbe folle. Puis il pose son instrument et chante d'une voix claire comme le chant d'une source oubliée. La nuit près de mon arbre où il fait chaud. La nuit près de mon arbre. La nuit me portera dans son ventre pour me bercer encore. Et ce jour, cette nuit, je pourrai sourire. Le serviteur du roi s'appelle Souris. Il ne sourit pas. Il obéit silencieusement et on dirait qu'il a depuis trop longtemps quitté quelqu'un et ce pays là où il est né. Il porte un masque de souris posé sur sa tête. Quand il n'a pas de travail, il dessine par terre sur des vieux bouts de papier peints les reliefs de ce pays où est resté son cœur. Le temps a passé. Dehors, c'est l'hiver. Dans la ville, sous les fenêtres du roi, l'air soulève une poussière blanche où l'ombre de chacun se projette et danse un peu. C'est une ville où toutes les voies de communication sont en terre battues par les roues des camions et les sabots des chevaux encore hébergés et nourris dans les écuries du château. Le roi se déplace souvent à pied, vêtu d'une robe en soie jaune et vieux rose pâle. Dans la campagne alentour, les arbres ont été saccagés durant plusieurs centaines d'années. Ils sont aujourd'hui replantés depuis près de 150 ans et maintenant, la forêt a pris une vraie place. L'hiver, on croit voir dans cette forêt une vraie renaissance. Les branches, nues, tendues vers le ciel comme des milliers de bras priant sans s'arrêter. Les arbres, doucement, écoutent le chant des étoiles et leurs vibrations qui résonnent et rebondissent à travers eux, jusqu'à nous.
Le roi entre dans la chambre de la reine. Il se dirige vers la fenêtre sans voir que la reine est là. Assise près d'une petite table, elle prend son petit déjeuner. Elle porte un pantalon en toile épaisse de couleur verte, une veste en toile sur un gilet de laine vert. Il fait froid dans ce grand appartement chauffé par un petit poêle à bois. Souvent froid. La reine allume elle-même son poêle quand le serviteur, sourit, est occupé à dessiner sur des vieux morceaux de papier peint les reliefs et les arbres de ce pays où est resté son cœur.
Surpris de voir la reine, le roi dit
« Tiens, vous êtes là ? La fête hier au soir chez vos amis était bien ?»
Oh oui, hier soir un gros homme est venu frapper à ma porte. Il m'a suivi après la fête. Il m'a pris en stop un jour, j'étais pas bien. Il n'est pas du pays, il ne parle pas notre langue. Moi j'étais perdue, comme souvent. Il a tout de suite pensé que je lui faisais des avances. Mon esprit était embrouillé. Comment cela peut-il être clair à l'arrivée quand ce n'est pas clair au départ ?
Au départ ? C'était quand ?
Je ne suis pas apte à aimer.
Dit-elle dans une attitude repliée qui fait qu'on croit voir un petit moineau et une petite fille en même temps.
Mon cœur est en guerre. Il bat encore, mais il est en guerre de ne plus rien voir. Voilà la définition du monstre que je suis. Les monstres, quelque chose de résonne en moi, quelque chose de cassé. Ce quelque chose de cassé fait que je me suis trop souvent laissé faire. Il y avait l'envie et le besoin de l'autre, c'était tout.
Quel autre ?
Quelqu'un d'autre. Comme cet homme hier au soir. Mon cœur en cage ne savait pas dire non quand quelqu'un voulait le prendre dans ses bras. Mais peut-être que un cœur en cage a plus besoin d'air que de tendresse.
Je vous connais, ma femme,
dit le roi, debout. Il reste loin d'elle, mais lui fait cadeau d'un regard.
Églantine se lève du tabouret où elle se tenait. Doucement, elle va vers le poêle, toujours froid, casse un morceau de cagette, déchire une feuille de papier journal de la veille.
Le roi prend une bûche par terre et tire une boîte d'allumettes de sa poche.
« Si cet homme vous suit encore, dites-le-moi et fermez votre porte, s'il vous plaît. »
Il ajoute.
« À 7 ans, tu as abandonné ta mère à cause d'un secret. Ce secret était la prison où tu vivais sans pouvoir grandir, ni parler. Tu étais enfermé, otage de toi-même, sans voix. Tes amis étaient les 3 chèvres. Et 4 moutons.
Oui, et aussi 4 balles que je m'amusais à faire tomber,
dit-elle en jouant avec une petite balle qu'elle jette et puis attrape en dansant.
Dehors, il y a un bruit de petits moteurs énervés. C'est la voiture télécommandée d'un petit page de 13 ou 14 ans, joueur d'échecs employé par la reine mère Amibi, mère du roi Cendre.
Églantine, en souvenir de ta petite enfance, dans la ferme de tes parents, tu as voulu croire que la vie était belle parce que tu as été heureuse avec les bêtes, et heureuse avec ta vieille nourrice.
Oui, et puis nous sommes partis. J'avais 7 ans. Nous avons quitté ma ferme et l'enfance. Mon père était devenu alcoolique. Ils sont partis, laissant ma nourrice de 80 ans seule. Elle était seule et j'étais seule. J'ai abandonné ici mon cœur et mon âme. J'ai décidé que je ne parlerai plus à mes parents ni aux adultes qui l'avaient laissée seule. Mon présent privé d'air, c'était souvent sentir chaque minute comme un coup de poignard de plus dans mon cœur trop plein d'absence.
Soudain, la porte s'ouvre. C'est le jardinier qui a l'air pressé. Comme emporté par une tempête invisible, il dit
« Madame, il y avait des pucerons sur les rosiers. Je pense qu'il n'y aura plus de pucerons. Vos animaux ont mangé presque toutes les fleurs. »
L'homme a l'air contrarié.
« Ah !»
dit la reine un peu gênée.
Je vais tout de suite m'en occuper. »
La reine Églantine possède un petit troupeau de 7 ou 8 bêtes. 4 brebis et 3 chèvres qui la suivent partout dans ses promenades. Alors elle prend sa veste, mais dit encore, s'adressant au roi.
« Aujourd'hui, je suis peut-être enfin libre. Libre dans une enfance qui ne finira pas, parce que c'est là que je vis. »
Dit-elle en allant cueillir par terre une petite balle qu'elle lance en l'air, en petits pas chassés. On dirait une libellule qui danse.
Je dois partir marcher là-haut, chez moi, sur la terre de mon enfance. Voulez-vous m'accompagner ?
Je ne peux pas venir. Je vais pêcher. Je crois que j'ai rendez-vous avec elle ce soir encore.
Dit le roi en regardant le jour blanc à travers les carreaux.
Ton poisson qui parle ?
Oui, mon poisson qui parle. Mais, madame, si tu pars, n'oublie pas de me ramener ton sourire. Ce sourire qui est l'hameçon au bout de ta ligne. N'oublie pas que je suis encore ton bon ami, la carpe du fond des âges. Je peux te dire ces messages. Tous les messages magiques qui peuvent, eux, ouvrir les portes fermées à l'intérieur de toi.
Dit-il en s'approchant près de sa joue.
Viens, donne-moi un peu d'air. Je sais que tu ne veux pas me voir mourir. Viens, ma reine. Déjà, je n'entends plus leur voix de sirène apeurée. Déjà, je ne suis plus le roi.
Le roi s'est assis au pied du lit. Églantine lui couvre les épaules avec une peau de mouton, l'embrasse sur le front, puis s'en va. 7 ans plus tôt, le roi, Sandre, a rencontré sa femme, Églantine, endormie en plein milieu du chemin.
C'était un bel après-midi d'hiver, la veille de l'anniversaire de ses 27 ans. Le roi avait pris dans sa poche une ligne, dans sa main un appât pour voir si son ami la carpe du petit étang viendrait le voir ce soir-là. Il était parti à pied. Il avait la démarche sautillante, un peu électrique d'un chat, sur le sentier, le long du parc où vont les chevaux pour courir.
Les haies en hiver sont grises et embrouillées comme un dessin d'enfant fait au crayon à papier. Au bout du sentier, il y a la rivière riante et vive comme une couleuvre qui joue à cache-cache entre les rochers aux formes rondes et pleines. Les rochers, on dirait qu'ils se parlent en écoutant chanter le bruit de l'eau. Plus loin, la rivière se jette dans un étang d'eau calme et noire. Près de lui, le roi vient s'asseoir. Il se dit
« Cette eau, on dirait qu'elle réfléchit en regardant le ciel. »
Alors, il a lancé sa ligne et attendu son ami la carpe, comme on attend un messager en des temps trop confus.
La carpe n'est pas venue, mais il lui a semblé la voir sourire pas loin de la surface. Vers 17h, le roi repart. Il longe la rivière, prend le sentier bordé de haies. Quand la nuit qui tombe, il voit une forme humaine couchée là, au beau milieu du chemin. Autour d'elle, il y a 4 brebis et 3 chèvres. Sans faire exprès, Sandre l'a réveillée.
C'est le matin. Souris va partir. Il dépoussière la vieille auto qui ne sert plus à personne. Il a ouvert la porte du garage. Il se prépare à partir. Croise Églantine qui marche, vive et prête. Elle est venue cueillir ce frais soleil d'hiver.
Je suis venue cueillir ce frais soleil avec une éprouvette dans l'air liquide et froid.
Se dit-elle à elle-même en sautant joyeusement au-dessus du seuil de la porte. Souris est là, immobile près de la porte. Sans égard, il attrape le bras de la reine qui ne l'a pas vue.
Madame, le roi m'a invité à repartir chez moi. Madame, je m'en vais.
Il porte encore son masque de souris comme un bouclier dans la tourmente. La reine est surprise, mais délicate. Elle lui ôte son masque de souris qui tombe à terre. Il ajoute, en lui lâchant le bras.
« Là-bas, je sourirai peut-être vraiment. »
Fatiguée, un peu abattue par ce départ, la reine Églantine s'assoit sur un petit mur près du garage, muette. Elle cherche dans son sac du papier et un crayon pour écrire ce mot.
« Souris, quand tu seras arrivée dans la ferme de tes parents, et quand tu souriras enfin, s'il te plaît, pense à moi. Je veux moi aussi voir ton sourire. » Sentir le soleil se lever, enfin.
Souris, sans sourire, a pris le mot de la reine, a démarré la vieille auto. Il s'en est allé. Aigli ne peut plus bouger. Elle reste là. Là, elle se sent comme l'antilope tombée sous les griffes du tigre, sans pouvoir bouger. Elle voit les gens dans la rue et les enfants qui passent, animés de cette force vive que leur ont donné leurs parents.
Églantine a ramassé le masque et puis traversé le désert de plaine. 25 kilomètres de champs sans haies, sans oiseaux, 25 kilomètres d'argile nue, parsemée d'herbes vertes en ce début de printemps. Églantine traverse le désert des champs, résultat de la politique agricole commune, où les hommes sont parqués dans les villes se nourrissant de médicaments, de feuilletons à l'eau de rose, de fast-food et de films d'horreur. Les moissonneuses batteuses ramassent le blé dans les champs. Les usines fabriquent le pain. Ici, les champs sont à perte de vue, nus d'arbres, nu de vie. Le vent siffle dans ce désert une chanson sans air ni parole. Le vent ici ne sait plus chanter que le vide où se grand rien. Églantine visite. Elle a quitté le désert des hommes et leurs feuilletons et leurs chansons tristes. Ce jour, elle traverse un autre désert. Elle avance avec et contre le vent qui tourne et tourne, comme un lion en cage que les hommes ont rendu fou. Elle marche sans peur. Elle sait que ce désert bientôt va finir, quand elle sera près des chaînes de montagne, dernier rempart à la folie des hommes. Elle connaît la route. Ses bêtes la suivent sagement. Près d'un petit cabanon assailli par les ronces, Églantine s'est assise. Et puis elle est entrée dans la cabane. Elle croit encore sûrement qu'elle va réussir à réveiller le squelette d'une princesse endormie, assise, là, par terre, entre une petite boîte de Valium et un vieux roman bon marché qui parle d'amour et d'incendie volontaire.
Assis sur un petit tas d'herbes sèches, Aigli regarde ses bêtes manger les pousses encore plus jeunes que ce début de printemps. Autour, personne. Personne dans ce désert. Aigli se sent étrangère et loin, loin dans ce monde aseptisé, trop propre, mais trop sale, empoisonné par les produits chimiques. Même les bêtes ici ne semblent plus appartenir à ce monde assassiné.
Courage,
se dit-elle.
Plus que 10 kilomètres en enfer.
Souris est arrivé dans son pays. Il reconnaît la route, rien n'a changé en apparence parce que quand il est parti d'ici, les hommes avaient déjà quitté leurs vieilles habitudes. L'habitude de se lever le matin pour aller nourrir les bêtes en plein hiver quand le givre crisse sous les pas dans ce jour, toujours pareil pour celui qui s'est endormi au tréfonds de lui-même. Ce jour toujours nouveau pour celui qui voit naître l'aube et lui dit merci d'être chaque jour encore plus belle et jeune.
Dans son village, les hommes attirés comme des papillons par les lumières de la ville sont partis butiner tous ces nectars artificiels, chimiques, factices. Alors saoulés de drogue qu'ils vont têter chaque jour à midi dans le labyrinthe sans issue. La ville, où beaucoup entrent sans voir qu'ils se laissent peu à peu digérer par cette jolie fleur carnivore. La ville.
Souris aussi est parti de sa terre. Il a vu la ville, il a vu la boue des gens, contents de vivre et de respirer de la boue, et leurs joues creuses comme un cri sans voix. Et déjà vieux. Tout ça fait qu'au deuxième matin, Souris est allé frapper à la porte des grands appartements du roi. Ces appartements servent de vieux placards, de remises pour y ranger ce roi happé par ses rêves de liberté sans chaîne.
Le vrai dictateur des hommes de cette ville, c'est l'argent. Ou l'apparente croyance que tout va bien parce que tout brille, que tout est neuf et sans tache.
Même les pauvres croient cette réalité qui est devenue leur réalité. Dans ce jeu, ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont l'argent, cela trouve nécessaire de continuer à se cacher derrière une vieille hiérarchie familiale, monsieur le roi Cendre, pour que le peuple puisse encore parler ou écrire, s'il lui reste une voix pour parler, à quelqu'un, un visage connu, une grande assistante sociale.
Le roi prend très au sérieux son rôle d'assistante sociale. Pour gagner plein d'argent, les dirigeants ont eu l'idée de couper les pains, beaucoup de pain, pour en faire du papier et remplir les cases de ce grand monopole.
De toute manière, eux s'occupent de tout depuis très longtemps déjà. Cette entreprise de coupe d'arbres est l'entreprise majeure de cette ville.
Dit le roi à voix haute, seul dans son bureau, près de sa plante apprivoisée, alors qu'il est l'heure de recevoir les hommes et leurs requêtes. Quelqu'un frappe à la porte, le roi va ouvrir, c'est le joueur de sitar.
Bonjour,
dit le roi.
As-tu une requête ?
Oui, le roi lui coupe la parole.
Tout à l'heure, toi qui es musicien, tu sais ce que c'est d'être obsédé par la pureté, obsédé par l'idée de vouloir rendre pur le cœur de tous les hommes.
La musique est ma voix, elle est mon chemin, elle est mon guide dans le brouillard des idées.
Le brouillard de tes idées ?
Le brouillard de mes idées, et celle de tous ces hommes, ceux qui marchent dans la lumière. Ceux qui rampent dans la boue, moi, j'entends leurs cris et le bruit de leurs pas qui courent vers l'espoir de naître enfin. Ces pas courent et résonnent dans ma tête, ils deviennent le rythme et la musique. Je n'ai plus qu'à suivre leur voix pour inventer ma chanson.
C'est tout. Mais ta musique et puis ta chanson appellent ce qu'il y a de plus pur. n'est-ce pas ?
La musique a le pouvoir d'apaiser le stress et aussi de réveiller les corps depuis trop longtemps endormis dans des habitudes trop vaines. En ce sens, je crois qu'elle est pure parce que son seul but est d'éveiller l'homme en sa vraie présence.
Peut-être que je m'attache trop aux hommes qui souffrent depuis trop longtemps. Ils me semblent parfois être habités par leur esprit qui souffre. Cet état me fatigue beaucoup. Me comprends-tu ?
Oui et non.
Voudrais-tu rester encore ici quelque temps ? Ta musique m'apaise, et puis je veux danser. Tu habiteras la chambre voisine,
dit le roi en ouvrant une petite porte au fond du bureau.
C'est d'accord, majesté,
dit le joueur de sitar dans une gracieuse révérence. Il suit le roi et va poser son sac de cuir et ses instruments dans la petite chambre voisine. La chambre n'est pas grande, entièrement bleu ciel, du sol au plafond. Deux colombes peintes se sont posées sur un olivier grandeur nature, peint sur le mur à droite de la fenêtre, immense.
Sandre s'est assis à son bureau. Il pense à sa mère Amibi.
Morte il y a 3 semaines,
se dit-il. Amibi était une grande fumeuse d'opium. Sa mère était reine, et reflet de son époque malade de toujours s'échapper. Elle occupait le dernier étage du château, lui-même situé en plein cœur de la ville. Sa chambre était un fumoir. Elle n'en sortait qu'au crépuscule, 4 jours par semaine, pour jouer aux échecs avec 2 amis, l'un jardinier un peu poète, mais pas bavard avec la reine. L'autre était un petit page. Les échecs étaient sa seule fonction. Il n'était pas bavard non plus, comme le voulait la reine.
Amibi jouait jusqu'à minuit, l'heure d'aller dormir jusqu'à 6 heures. Ces heures d'avant l'aube, la reine sortait enfin de sa chambre pour respirer un peu d'air sans fumer. À cette heure où dans le parc le jour pointe, la brume apparaît et la lumière doucement nous parle tout près de l'oreille. Le matin est ce langage sans mots qui parle trop. À cette heure, Amibi, sans attendre, partait se recoucher.
Sandre cherche à savoir d'où il lui vient cette obsession, cette quête de pureté. Quelqu'un frappe à la porte.
« Entre !»
dit le roi.
« Emma, ma chère nourrice !»«
Bonjour à vous, ma lumière et mon maître !»
Emma porte dans ses mains une urne en terre.
« Venez, Sandre, dans le parc !» J'ai quelque chose à vous montrer.
Emma, ne me tourmente pas trop, s'il te plaît. Je te suis. Mais je veux te demander quelque chose.
Ils arrivent au parc, près d'un bassin où nagent des poissons rouges. Ils se laissent doucement bercer par le petit bruit de l'eau qui chante, joyeuse. Le roi prend sa voix la plus douce pour interroger sa nourrice.
Pourquoi suis-je toujours en quête de pureté, chère Emma ?
Peut-être qu'Amibi, votre mère, vous manque ? Elle vous a dans votre enfance presque oublié.
Moi, je n'ai pas oublié mon enfance. Et je n'ai pas oublié ma mère.
Dit-il dans un souffle presque inaudible.
Je sais qu'elle est ma mère. Voilà pourquoi je voudrais être plus humble et plus pur pour ne plus lui ressembler. Peux-tu m'aider encore ?
Encore ? Oui. Il y a 3 semaines, votre mère est morte. Son corps a été incinéré. J'ai moi-même recueilli les cendres de son corps. Il y a quelque chose dedans les cendres. Regarde, mon maître, ta mère avait un secret. Ce caillou, c'est ton héritage et c'est son secret.
Dit-elle en lui tendant l'urne funéraire. Cendre, sans comprendre... prend l'urne et plonge sa main au fond. Il sent une petite pierre polie, ovale. Ses mains pleines de cendres laissent tomber le récipient qui éclate sur les dalles en pierre. Cendre respire cet instant. Sa vie d'un seul coup est passée du noir et blanc à la couleur.
Quel instant n'a pas été trop futile entre ses mains. Ma mère n'a pas pu oublier tout le monde. Ma mère n'a pas oublié l'enfant qui a su jouer aux échecs avec elle, nuit après nuit. « Sans s'ennuyer, »
dit-il, et, se tournant vers les cendres de sa mère, il voit le petit page joueur d'échecs. Il était sûrement la dernière personne qu'Amibi ait vue le jour de sa mort, et tous les jours de l'année passée aussi. Il est aujourd'hui à genoux par terre, les mains pleines de cendres. Il y a une larme sur sa joue. Sans attendre, le roi Cendre s'approche de lui et lui dit
« Je pense que ce caillou t'appartient. La reine l'a laissé pour toi. »«
Merci, »
dit le page.
« Les échecs m'ennuient. Demain, on jouera au ballon si tu veux bien. »
« Oui, » dit l'enfant. La paume de sa main est ouverte. Dessus, il y a une pierre de cristal violette et jaune translucide. Dans ses cheveux et sur sa joue, une petite pluie fine vient se mêler aux larmes comme des perles sur sa joue.
Ça fait maintenant 8 jours qu'Églantine est partie. Ce 9e jour, le facteur apporte, dans les mains du roi, une lettre qui dit
« Monsieur, je vous écris de ma colline, où je dors et où j'écris. Mon lit d'herbe est si doux. Ici, j'ai planté ma serre et mon jardin. Ici, je suis bien. Ma mère et mes frères s'occupent de l'entreprise familiale. Ils sèment, ils arrosent, ils récoltent et puis ils vendent des milliers de fleurs, des œillets rouges, bleus, jaunes et blancs. Avant-hier, j'ai croisé mon père, ivre comme à son habitude. Il revenait d'une fête qui a duré 6 ans. Se souvient-il de moi ? Se souvient-il de sa fille ? Et se souvient-il du jour où il m'a tuée ? Aujourd'hui, je suis vivante. Et je sais qu'il ne s'en souvient pas parce qu'il était déjà mort quand il m'a tué. Ivre mort depuis plusieurs années. Je ne lui en veux pas. Je ne lui en ai jamais voulu. Je crois que mon père m'a pris en otage sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, peu importe ce que j'ai à lui dire. Voilà pourquoi j'ai décidé de construire un temple, ici, près de la colline de mon enfance. Un temple fait avec les troncs d'arbres entiers des pins noirs qui tous les jours sont coupés pour faire du papier. Pouvez-vous m'aider ? Je veux édifier un temple avec un lit pour dormir, pour tous les alcooliques qui auront peut-être un jour l'envie d'arrêter de boire. Ceux-là pourront se reposer ici et quitter l'alcool. Monsieur, s'il vous plaît, écrivez-moi pour me dire que vous me soutenez dans cette entreprise.
Églantine, en allant poster sa lettre à pied, a croisé son père. Il ne paraît pas saoul. Il est au volant d'une grosse voiture avec un moteur de tracteur.
Plus saoul depuis combien de temps ?
Se demande Églantine. Il s'arrête. Églantine !
Oui, père ?
Dit-elle, étonnée qu'il se rappelle encore de son prénom. Sais-tu ce qu'il restera de moi quand je ne serai plus là ? La pluie sur les fleurs parlera-t-elle le même langage ?
Non,
dit Églantine, très impressionnée, la gorge nouée par la peur.
Eh ben, moi non plus, je ne sais pas ce qu'il restera de moi. Parce que depuis que je ne bois plus, je sais que vivre, ce n'est pas de faire brûler des allumettes en prison, non. Vivre, chevaucher les champs des possibles, tous les possibles. Courage, ma fille,
dit-il en s'en allant.
Il n'y a plus d'accident dans la vie d'Églantine arrivée sur terre dans une étincelle, l'étincelle que 2 voitures saoulent, ses parents, ont fait en se croisant il y a 30 ans. Il n'y a plus d'accident dans la vie d'Églantine, juste une tâche. Vivre, créer.
Souris a garé la vieille voiture près d'un champ. Ce champ où il jouait petit avec les enfants de son hameau, posé sur une colline, suspendu entre ciel et terre. Quelques arbres fruitiers jaillissent çà et là. Il lui semble que rien n'a changé. Tout s'est arrêté. Les jeunes gens sont partis en ville. Les vieilles machines agricoles sont restées. Échoués, çà et là, au bord des champs, comme des navires oubliés. Assis par terre, souris, dans la lumière vive et pâle de cet hiver-là, il lui semble entendre battre le cœur de la terre. Ce battement résonne en lui, comme un langage précieux. De nouveau, il l'entend. Ce battement, c'est sa langue et son sourire. Souris, souris, sous le soleil, alors que sa mère vient à lui pour l'embrasser.
Églantine n'a pas commencé la construction du temple. Elle aime marcher la nuit, elle dort dans une petite tente près de l'ancienne maison de sa vieille nourrice, disparue il y a 15 ans. Sur son petit carnet, elle a écrit
« Cette nuit, j'ai pleuré de ne pas pouvoir te retrouver, ma nourrice. Aujourd'hui, je sais où est resté mon cœur et mon âme. Je sais pourquoi je suis ici. Je suis ici parce que c'est ici que j'ai laissé mon cœur. Près de ma nourrice, gardienne de mon âme pour toujours peut-être. Je n'ai fait que visiter l'enfer depuis le jour où nous t'avons quitté, ma nourrice.
Et puis, un autre jour, elle a écrit.
Qui suis-je? Juste un corps sans cœur qui ne peut pas aimer.
Et puis encore.
Je ne pouvais plus pleurer, parce que mes larmes, je les ai gardées pour toi, ma nourrice, tant et tant d'années.
Et encore écrit.
Fait-on le deuil de sa terre? Non, parce qu'à sa terre restent accrochés les souvenirs vivants, comme un écho qui chante sans s'arrêter au dedans et au dehors.
Et puis il a neigé, et elle a écrit.
Ce jour, la neige recouvre la terre sur 40 centimètres. Je suis sortie faire de la luge avec les enfants du village. J'ai mis des raquettes pour pouvoir marcher sur la croûte glacée. En marchant, je me suis sentie comme un explorateur à l'assaut d'un nouveau matin, en un territoire inexploré, vierge de toute présence humaine. J'ai volé juste au-dessus du sol, sur la glace, sur la neige, juste au-dessus de ce monde et des hommes. J'étudie, j'ai un peu l'impression de réussir à marcher sur l'eau. Et mon seul désir à ce moment-là est d'accomplir ce miracle, marcher sur l'eau. Parce qu'en marchant sur la neige, je n'attends plus rien d'autre que le craquement de la neige sous mon poids. Et ma seule question devient ce dialogue entre l'eau, la glace, la neige et moi, marchant au-dessus du monde et au-dessus de l'eau glacée comme les sentiments que j'éprouve pour beaucoup d'hommes, même quand ils rient. Il semble qu'il rit pour alléger ce fardeau qu'il porte tous les jours. Il rit pour s'échapper. S'échapper et se laisser croire qu'il n'appartienne pas aux grimaces hideuses, obscènes, ni aux inutiles mensonges de cette société. Parce qu'il rit, la grimace s'efface, le temps d'un éclat de rire. Riant, il se sent plus léger, comme si le seul désir commun à tous les hommes était de se sentir léger. Enfin pouvoir marcher sur l'eau. Et visiter la terre évanouie, visiter la terre, cette princesse endormie, depuis si longtemps. Et pouvoir marcher sur la surface glacée de cette belle princesse, à la surface, peut-être sa peau, peut-être son visage, peut-être sa joue enfin accueillante. Enfin, elle va sourire, et je vais pouvoir boire l'eau de la source d'un vrai sourire, clair dans le matin.
Ma réalité fausse, c'est comme un viol permanent. Je voudrais pouvoir être comme ceux que le manque, je parle du manque affectif, n'atteint pas vraiment, ceux qui savent faire avec. Je crois encore que je n'aime pas l'humanité, et c'est vrai, mais c'est aussi faux, car aimer les autres, c'est apprendre à rester humble et juste, et c'est ce que je veux être. Ne plus compter les grains de sable du sablier, juste être. Être juste ici et là. Apprendre à ne plus participer à ce viol permanent. Le grand viol permanent auquel tout un chacun sait si bien participer. Parce que mentir, c'est du viol. Le viol de cette réalité qui ne peut plus naître à cause de tout cela. Les robots issus du formatage intensif qu'est notre société.
Promesse. La pluie tombe. C'est beau la pluie. C'est comme un chant. Je reste là, pleine de ne plus attendre. Juste entendre. Et écouter le bruit de l'eau qui chante. Ce petit rire qui n'en finit pas. La pluie s'offre à la terre. C'est une promesse.
Le roi Cendre ou l'eau de la source, par Liliane Redon. Lecture par Lucie Yvon, Nadine Gardère, Blandine Desvignes, Henri, Fanny et Aline. C'était Rimailleur ou ici.